Donc, je suis là pour témoigner, j'ai vu dans le programme, donc je vais témoigner en tant que chef de projet. Et vous dire, revenir un petit peu en arrière au 19 juin 2007, lorsqu'a été créé l'UNSPF, en fait, et que lorsqu'il y avait eu la déclaration d'intention, et notamment les déclarations politiques de Françoise Galland, il y avait une offre qui me paraissait originale. C'était l'offre d'avoir un public, enfin une offre de ressources stratifiées, ce qu'on appelait à l'époque l'offre stratifiée, donc en distinguant bien les publics auxquels on s'adresse, étudiants, éventuellement enseignants, étudiants de la formation continue, et puis grand public. Parce que ça, ce qui me déplaisait un petit peu à l'époque à l'UMVF, c'est qu'on avait certes des ressources accessibles pour tous, mais qui n'étaient absolument pas adaptées, quelquefois au public qui se connecte sur le site de l'UMVF. À part ça, c'est très bien, mais ça me semblait très très bien que la pharmacie prenne une autre voie et permette de produire des ressources qui sont spécifiques pour le public qu'elle veut toucher. Donc je ne vais pas continuer sur cette introduction, je vais tout de suite être un petit peu plus exemplatrice, ça doit être un petit peu un néologisme, ça, enfin c'est pas grave. Je vais vous montrer donc des exemples. Donc nous sommes deux, nous sommes deux à nous être collés, à essayer de produire des ressources pour le grand public pour l'instant, mais j'espère que nous serons beaucoup plus nombreux par la suite, parce qu'évidemment c'est un double travail, on commence par les étudiants et puis on reproduit quelque chose pour le grand public. Je vais vous montrer deux exemples, celui qui concerne le projet sur les champignons toxiques et puis celui qui concerne le projet de chimie thérapeutique d'Alain Nurich sur les médicaments du platine. Donc vous voyez ici l'étudiant, c'est une présentation très académique, mycologie générale et appliquée. Donc commencer le module, donc on se met dans la peau d'un étudiant qui est plutôt grand, donc en cinquième année de pharmacie, qui va dans le cours de mycologie appliquée, qui s'intéresse aux champignons toxiques et comestibles, il y en a encore, surtout pour les champignons toxiques, surtout quand ils sont hallucinogènes, mais là ça ne sera pas notre exemple. Nous allons chercher des champignons qui sont responsables de syndromes d'intoxication d'apparition longue, donc vous voyez une classification par syndrome très appliquée, et par exemple le syndrome phalloïdien avec les amanites, les différentes espèces avec la plus célèbre, qui va être l'amanite phalloïde. Hop. Donc je passe les détails, voilà. Par exemple, la fiche descriptive. Et voilà. Et alors là, évidemment, c'est un peu petit parce que c'est fait, bien sûr, pour l'étudiant devant son écran. Mais vous avez une très belle fiche descriptive de l'amanite phalloïde avec des termes choisis. Un langage un petit peu, un jargon qui n'est pas bien sûr adapté au grand public, mais plutôt à des étudiants qui ont un prérequis en mycologie générale. Notamment, on retrouve ici des données en microscopie, donc c'est plus adapté à l'étudiant qui est dans sa salle de travaux pratiques plutôt que sur le terrain. Alors si je montre la même chose maintenant pour le grand public, alors vous voyez tout de suite, évidemment, ce n'est plus cours de mycologie générale et appliquée, mais mieux connaître les champignons. Voilà, avec une belle introduction. Champignons et toxicité, les principaux champignons toxiques, et vous retrouvez les amanites. Mais cette fois-ci, si l'on prend donc la même fiche, avec quelque chose de beaucoup plus succinct et avec un vocabulaire qui est choisi pour le grand public, donc qui n'est pas aussi complexe que celui que l'on destine aux étudiants, avec des précisions concernant les confusions, peut être intéressant aussi pour les étudiants, mais qui l'est beaucoup pour le ramasseur de champignons, et puis éventuellement des rappels comme « méfiez-vous de la couleur des champignons » ou « faites attention à la façon avec laquelle vous ramassez le champignon », etc. etc. Donc voilà pour le premier exemple concernant les macromycètes. Alors, si je vais chercher maintenant l'exemple d'Alain Nurich en chimie thérapeutique. Donc voilà, il s'agit d'un court extrait, en fait d'une ressource pour le grand public extraite des traitements anticancéreux. Ici, il s'agit des traitements anticancéreux qui contiennent, avec des médicaments qui contiennent du platine. Donc pareil, la même présentation, commencer le module avec une introduction. Et là, ce qu'a fait Alain, ce que nous n'avons pas fait en mycologie, mais on va sans doute y songer, c'est que vous voyez, dès qu'il y a un terme qui peut paraître quelquefois un petit peu abscon, bien qu'on l'entende souvent, mais c'est bien de rappeler la définition exacte, et nous sommes là aussi pour ça, comme par exemple la chimiothérapie ou la radiothérapie. Vous pouvez cliquer et vous avez directement une petite fenêtre qui s'ouvre avec la définition du terme qui est un peu plus compliqué pour le grand public. Donc ça, c'est une très bonne chose qui se trouve sur cette ressource. Je peux montrer... Ou tu veux que je montre les effets indésirables? Oui, parce que c'est bien sûr ce qui intéresse beaucoup les malades et ceux qui se traitent avec ces médicaments dérivés du platine. Voilà, donc je l'ai montré puisque Françoise le voulait, mais je voulais vous montrer. Voilà, je voulais vous montrer autre chose qui est très bien sur cette ressource. C'est pour en savoir plus. C'est ça, ah, j'en étais sûre. Pour en savoir plus, voilà. Donc quelque chose de très intéressant. Qui rappelle évidemment les navigations qu'on peut avoir sur d'autres sites web, les questions les plus fréquentes. Voilà, ça c'est une présentation intéressante pour le grand public, avec par exemple les traitements à base de platine font-ils perdre les cheveux? Hop, on est présenté comme ça, et si je vais sur la petite clé, j'ai tout de suite la réponse qui est attendue par beaucoup de patients. Donc voilà, j'en ai terminé sur cette présentation rapide des premiers combattants sur l'espace numérique et grand public. Et puis j'en terminerai pour dire quand même que je pense qu'en tant que pharmacien et en tant qu'enseignant-chercheur, on ne peut être intéressé que par la production pour le grand public, puisque ça fait partie de nos missions, et des pharmaciens et des enseignants-chercheurs, de diffuser les connaissances scientifiques.
L'autre façon de voir les choses, c'est de dire on va faire des fiches spécifiquement pour les étudiants. Alors de la même façon que Jean fait travailler ses étudiants sur des cas cliniques, eh bien à Angers, on a proposé aux étudiants de faire des fiches sur des médicaments ou sur des pathologies à visée du grand public. Donc je vais vous en montrer quelques exemples. Donc un exemple ici sur les antiépileptiques, où on utilise les balises pédagogiques qui sont les mêmes que celles qu'on utilise pour les cours. Alors c'est quelque chose qui est très simple, on a fait vraiment une version très light. Alors je vais vous montrer un autre exemple sur les traitements immunosuppresseurs, donc avec le traitement, des recommandations, etc. Donc on pourrait imaginer que les étudiants, quand ils sont en stage à l'officine ou dans un laboratoire, eh bien fassent des fiches comme ça, et puis qu'on fasse un concours, et que ce concours prime des productions qui seraient faites et valorisées dans ce cadre-là. Alors, j'ai eu l'opportunité, je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'ai dit à quelques-uns, d'être invité l'année dernière et cette année, par la FIAM, qui est une fédération qui travaille sur le numérique, mais dans tous les domaines. Donc c'est le numérique appliqué à la culture, à l'économie, aux finances, etc. Et moi j'ai été invitée, pas du tout par rapport à l'éducation, mais par rapport au changement de mode de vie des gens, par rapport à leurs besoins d'information sur les problèmes de santé. Et donc, c'est pour ça que j'avais été invitée, pour présenter ce projet d'université numérique en pharmacie, mais sur l'aspect information pour le grand public. Et donc, j'ai eu la chance de présenter ça dans le cadre de ce colloque. Et puis, j'ai été aussi invitée à des entretiens avec des Chinois qui avaient vu au préalable le projet. Et j'ai présenté ça aussi, j'ai été aussi invitée à présenter ça au pavillon des Nations Unies dans une thématique sur les aides sud-sud. Alors tous ces échanges, au vu de ce que j'ai présenté, m'ont amené à vous faire ces propositions. Alors pourquoi un site web sur la e-santé et la e-pharmacie ? Alors j'ai fait ces présentations en anglais, enfin la dernière, ce qui fait que j'ai pas tout changé, et vous avez, si vous êtes allé à l'expo de Shanghai, il y avait tous les panneaux Better City, Better Life, Et donc, moi, j'ai présenté ça avec, en y ajoutant, Better Health. Alors donc, la proposition, elle est par rapport à nos informations sur la société, de dire qu'on a un changement dans la vie sociale et que maintenant, de plus en plus, les recherches d'informations concernant la santé, on a du bon, on a du mauvais et qu'on ne sait pas toujours faire le ménage. Donc, si nous, on offre des informations et qu'on a le label de qualité, le petit label rouge du poulet, mais sauf que nous, ce sera le label de l'UNSPF pour dire « ça, c'est des ressources qui ont été produites par des universitaires ». Forcément, un universitaire, il se trompe jamais, donc elles sont bonnes. Alors, il y avait quelqu'un de l'ONU qui était là, qui a fait une présentation, et qui nous a dit, ce qui a scotché un certain nombre de personnes, que maintenant, il y a plus d'internautes dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Donc ça veut dire que l'accès à Internet n'est pas un handicap. Alors, si on reprend l'esprit de l'université numérique en pharmacie, nos missions, c'est ce qu'on a traité jusqu'à présent, la formation initiale, la formation continue. Et pourquoi on s'investit dans le numérique? Parce qu'il y a un changement de relation au savoir. Et finalement, au grand public, c'est un petit peu ça ce qui se passe, en y ajoutant le fait qu'on nous demande de répondre à nos missions d'éducation thérapeutique. Alors, pourquoi créer un site web? Eh bien, la deuxième raison, c'est parce que il y a un vieillissement de la population. De plus en plus, il y a des traitements à domicile. Donc, ça veut dire que les personnes, le diabétique, etc., ou l'insuffisant pulmonaire va rester chez lui. Il va y avoir un système de télésurveillance qui va être connecté à l'hôpital. Et donc, il y a un Chinois qui est venu me dire, mais moi, j'ai un système de télésurveillance, moi, votre truc, il m'intéresse, votre site, il m'intéresse, je voudrais que le logiciel que j'utilise pour le système de télésurveillance, j'y ajoute votre site web. Moi, je dis, non, je ne vous donne pas mon site web, mais par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un lien sur le site web par rapport à la pathologie que vous traitez pour ce patient, ou que vous récupériez les informations qui concernent cette pathologie sur votre logiciel, et donc vous allez apporter un service supplémentaire au patient et à son entourage. Donc on fait l'éducation thérapeutique en même temps qu'on fait de la télésurveillance. Et puis j'ai expliqué que j'avais fait un rêve et que il y avait beaucoup, c'était en Chine, il y a beaucoup de médecine traditionnelle chinoise bien évidemment, il y avait beaucoup d'Africains qui étaient présents. Et peut-être que c'est aussi l'opportunité de remettre au goût du jour les médecines traditionnelles et qu'on les retrouve toutes sur le même site. Donc c'est peut-être une opportunité de promouvoir les connaissances sur les médecines traditionnelles et donc de respecter les diversités culturelles, bien entendu dans le respect des indications qui sont liées à ces thérapeutiques. Alors, si on accepte cette idée, pourquoi est-ce qu'il faut le faire maintenant? Est-ce qu'il y a eu urgence à le faire maintenant? Il y a peut-être une bonne opportunité du fait du développement durable, du retour à la nature, et donc c'est peut-être les gens sont peut-être prêts à revenir à ces médecines traditionnelles. Et puis, je pense qu'il y a un risque, c'est qu'il y a un risque de perte de transmission des savoirs. Parce que de plus en plus, et quand on voit en Chine, ça fait 4 fois que j'y vais, toutes les constructions qui sont faites, ça veut dire qu'il y a les gens de la campagne qui viennent habiter dans les villes, ça veut dire que la transmission entre les générations risque de pas se faire. Donc si on ne se presse pas de faire ça, probablement que ces savoirs, on va les perdre. Et puis la quatrième, et ça c'est sûrement un manque du parti qui m'a aidé dans cette analyse, c'est une occasion d'aider les politiques de prévention et de soins dans les pays du Sud, mais aussi dans nos pays, en offrant une information qui corresponde aux besoins et à la culture de chaque population, en concordance avec les politiques des gouvernements. Et là, quand j'ai présenté ce projet à Shenyang, la première fois, il y avait donc des gens de tous les pays, vraiment, tous les continents étaient représentés, et il y avait entre autres un salarié de la ville de Montréal. Il m'a dit, mais moi, ton projet, il m'intéresse, parce qu'on est en train de développer des ressources numériques pour pour notre population et typiquement par rapport à l'organisation de nos villes, eh bien, on a besoin de mettre à disposition des ressources dans ce domaine. Trois jours après, je vais à des ateliers d'échange à Wuxi, à 100 km de Shanghai, et j'avais deux personnes qui avaient pris rendez-vous. Et il y en avait une qui était une employée de la ville de Wuxi. La ville de Wuxi, c'était, 5 ou 6 millions d'habitants, qui me pose exactement la même question que celle de Montréal, celui de Montréal. Et donc, il me dit, comment je peux faire? J'ai dit, il faut produire des ressources. Elle me dit, vous pouvez m'en donner. Elle me dit, vous pouvez m'en donner? J'ai dit, non, les ressources, c'est vous qui devez les produire. D'abord, c'est en chinois. C'est par rapport à vos traitements. Donc là-dessus, elle me dit, mais je peux travailler avec l'hôpital? Oui, bien sûr, avec les médecins de l'hôpital, avec les pharmaciens de l'hôpital. Je peux travailler avec l'industrie pharmaceutique? J'ai dit, oui, bien sûr. Arrive un autre après, qui me dit, j'ai vu votre projet, comment est-ce qu'on peut mettre en place, coordonner une politique du gouvernement, les réseaux sociaux sur les sites des universités, des agglomérations et des régions, et puis votre site. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Je lui dis, on pourrait très bien avoir sur la communauté des réseaux sociaux des discussions par rapport à la santé, et s'il y a des besoins par rapport à ça, eh bien on pourrait développer des ressources et les mettre à disposition. Il m'a dit, très bien. Venez donc en Chine monter une entreprise. Alors je lui ai expliqué que moi je savais rien faire et qu'il fallait que ce soit lui qui le fasse. Mais donc je pense qu'il y a un besoin, qu'il y a une évolution dans la société, qu'il y a des besoins à tous les niveaux et qu'on a peut-être une place à prendre. Alors, comment est-ce qu'on peut créer ce site web? Et c'est pour ça que je voulais qu'Elisabeth fasse sa présentation, parce que je pense qu'il y a deux façons de produire efficacement des ressources, soit, comme Elisabeth l'a présenté avec ce qu'a fait Alain, des ressources qui vont être en partie utilisées, qui vont avoir un dénominateur commun entre celles qui sont destinées au grand public et celles qui sont destinées à nos étudiants, et puis des ressources qui vont être spécifiques, qu'on va développer spécifiquement pour le grand public, comme celle que je viens de vous montrer rapidement. Et donc ma proposition, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait pas mettre les étudiants à contribution, et puis de faire un concours, ouvrir un concours avec un financement, parce que c'est quand même plus motivant, et puis de dire, les étudiants, on vous propose, on va mettre un budget sur l'UNSPF de temps pour l'année, et puis on va promouvoir les 50 meilleurs projets que vous aurez fait, soit avec un maître de stage, donc on va utiliser le côté créatif de l'étudiant, et puis l'expérience du maître de stage, qui va dire, la question sur l'alopécie, elle est souvent posée. La question sur pourquoi est-ce que ce traitement-là, il demande de faire une échographie, eh bien ça, c'est un problème qu'il faut soulever, donc il faut le poser. Et puis, le deuxième partenariat, ça pourrait être un étudiant avec les enseignants qui ont produit des ressources sur les champignons, et puis là, du coup, eh bien, l'enseignant, il a fait son job, il a fait la version étudiant, et l'étudiant, lui, va faire la version grand public. Donc voilà ma proposition. En ce qui concerne le site international, je sais que c'est un gros chantier. Je pense qu'il faut un leadership politique. Et là, j'ai été contente parce qu'il y avait la représentante des Nations Unies qui m'a dit qu'elle était tout à fait ouverte à ce projet et qu'ils avaient ajouté cette année des préoccupations en termes de respect des diversités culturelles. Donc je pense qu'on aura une écoute par rapport à ça. Ça supposerait d'avoir un comité scientifique international. Alors on pourrait démarrer au niveau de la francophonie, ce serait déjà plus facile. Ça suppose aussi d'avoir des groupes pédagogiques et puis bien évidemment d'avoir des compétences techniques. Voilà.
Une petite réaction à chaud donc de notre part. En fait, quand vous avez commencé à aborder le sujet, on a eu l'idée qui a germé, et en fait, c'est exactement l'avant-dernière diapo que vous avez présentée. Donc je pense qu'on est plutôt d'accord sur à peu près tout. Je me demande dans quelle mesure il serait pas intéressant d'inclure l'ordre dans la réflexion, puisque puisque c'est eux qui s'occupent un peu via le collège des maîtres de stage de cette relation étudiant maître de stage. Donc la question reste ouverte. Je pense qu'il faut en parler avec les différents partenaires. Je pense que les étudiants, d'une manière générale, vont adhérer au projet. Parce que c'est intéressant pédagogiquement. Il y a cette idée de concours. Hein, c'est toujours un peu ludique. Et financier. Et donc, c'est vraiment l'idée qu'on venait de se formuler à l'instant, juste avant que vous finissiez votre intervention.
Eh ben, c'est super. J'ai oublié, merci de me proposer d'impliquer le Conseil de l'Ordre, et j'ai oublié aussi ce qui était prévu dans la table ronde initialement, c'est qu'il pourrait y avoir aussi un partenariat avec le LEM, parce que l'industrie pharmaceutique peut avoir des besoins à des moments donnés, et du coup, on pourrait proposer des thématiques en fonction des besoins des uns et des autres. Bernard ?
Moi, je trouve l'idée très séduisante, en particulier dans le cadre du LMD Pharma, où on a des UE de compétences transversales, communication, etc. Et moi, je crois que ça s'intègre parfaitement là-dedans. Alors, on a toujours la réserve de demander un travail supplémentaire aux étudiants par rapport à leur cursus, même s'il faut qu'ils se bougent de temps en temps un petit peu. Mais à l'intérieur du communication dans les UFR, peut-être pas en L2, mais un peu plus tard, ou dans la filière officine, moi, ça me semble parfaitement s'encadrer dans ce cadre-là, s'insérer dans ce cadre-là. Ça peut être validé ou faire partie du UE avec une validation, etc. Enfin, moi, je trouve sur le papier l'idée très, très séduisante.
Si je puis me permettre de rebondir, on a entamé avec le collège des maîtres de stage, là, donc on a eu une réunion, la dernière c'était il y a 2 ou 3 semaines, là, je sais plus trop, une réflexion sur le contenu des stages, justement, des stages, notamment des stages 2C, des stages de 3e et 4e année, qui sont peut-être un peu légers en termes d'objectifs, et je pense que ça peut, à long terme, c'est une réflexion qui est à ouvrir, hein, c'est vraiment une supposition, c'est un plan sur la comète, hein, mais je pense que c'est une réflexion à ouvrir avec le collège des maîtres de stage. Ça peut devenir un objectif de stage en termes de rendu en fin de stage sur des stages de avec un temps qui est assez court comme ça. Enfin, je sais pas, c'est une question qui est soulevée.
Non, évidemment, c'est une excellente idée, puisque c'est une idée de Françoise. Non, c'est une très bonne idée tout court. Sur le plan international, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et je ne sais pas si ça a le même intérêt au plan international, en tout cas au sein de la francophonie sûrement, de façon plus large, je ne sais pas. Ce qu'il faut sûrement prévoir dans le cadre des ressources qui sont mises à disposition du public, c'est clairement des instances de validation en notre sein, de manière à ce que ne partent pas sur le web. On se plaint, et c'était le début de ta réflexion, on se plaint que sur le web on peut trouver tout, mais aussi n'importe quoi, et que si on doit mettre des ressources, nous, à disposition du public, nous au sens très large du terme, hein, la collectivité, les étudiants, les maîtres de stage, il faut absolument qu'on prévoie un système de validation. Bon, voilà, pour tout ce qui est rapport avec ce qui peut relever, bien sûr, d'éducation thérapeutique du patient. Et donc là, je ne sais pas si j'ai une idée sur la façon dont on pourrait un peu s'y prendre pour cadrer ce type d'exercice dont l'idée me paraît vraiment très bonne.
Tout ce qui place les étudiants dans une situation proactive et dynamique est une bonne idée. Après, vouloir commencer par de l'international, même en dehors de la francophonie, me paraît pas raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut commencer petit, doucement, avec des actions bien ciblées, de façon à pas se faire noyer. Ça, c'est la première réflexion. Donc, j'ai une bonne idée, mais il faut cibler. Oui, non, mais tu répondras après. La deuxième chose, il faut pas confondre l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique du patient. Alors, l'éducation à la santé, c'est vraiment tout un ensemble comportemental qui intéresse le grand public. Et l'éducation thérapeutique médicamenteuse, l'éducation thérapeutique peut concerner la kinésithérapie. Donc, il y a une grosse confusion entre éducation thérapeutique et éducation thérapeutique médicamenteuse et éducation à la santé. Éducation à la santé, c'est ne fumez pas, ne buvez pas, mangez pas trop, etc. Enfin, on connaît ça. Donc ça, ça intéresse le grand public, on peut avoir des initiatives à ce niveau-là. Dès l'instant où on parle d'éducation thérapeutique, à ce moment-là, ça devient pluridisciplinaire, et les pharmaciens sont concernés par l'éducation thérapeutique médicamenteuse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ciblage, on prend les patients chroniques, c'est-à-dire des gens qui vont vivre avec une maladie toute leur vie, et le challenge des pharmaciens, c'est d'essayer de leur apprendre à gérer leur traitement, à le comprendre, à comprendre leur maladie, à gérer leur maladie et à gérer leur traitement. Donc ça signifie une banalisation, une vulgarisation, un vocabulaire, un niveau de langage, une approche des représentations, des croyances. Il y a donc des éléments qui sont extrêmement complexes. L'éducation thérapeutique, c'est un peu la tarte à la crème du moment. Tout le monde veut en faire, mais ça demande une formation, ça demande l'apport de disciplines comme les sciences de l'éducation, et donc je dirais que c'est quelque chose qui nécessite aussi de vérifier la différence entre l'information et l'éducation. L'éducation vérifie que le message est bien passé et que le patient maîtrise les concepts. Donc voilà, c'est pas simple, c'est énormément de présentiel et c'est aussi l'apprentissage, je dirais, en termes de connaissances. Et puis dans certaines maladies, c'est l'apprentissage des gestes, c'est-à-dire c'est la coordination main-bouche pour les asthmatiques ou la maîtrise de s'injecter de l'insuline pour des diabétiques. Donc tout cela ne s'improvise pas, nécessite... De la préparation. Et pour répondre à Dominique Porquet, l'éducation grand public, il y a de la validation à faire sur l'information sur les médicaments, et l'AFSAP c'est très très vigilante à ce niveau-là. Voilà.
Ce que je voulais dire simplement pour la Chine, c'est que j'ai pas été proactive, hein, j'ai juste répondu à une invitation, hein, donc
tu as répondu en mandarin.
J'ai répondu en mandarin, évidemment. Non, par contre, il y a un truc qui, je suis tout à fait d'accord que c'est pas ce qu'il faut traiter en premier et qu'il faudra sûrement envisager la francophonie avant d'envisager l'international. Par contre, il y a quelque chose qui m'a fait penser qu'il y aurait peut-être, il faudrait peut-être être proactif, c'est par rapport à tous les systèmes de télésurveillance, au moins pour avoir quelques informations. Je comprends très bien les réserves que tu mets, Jean, mais moi, mon objectif, c'était pas de faire de l'éducation thérapeutique avec un grand E, c'était juste d'aller proposer sur la toile des informations qui sont pas fausses. C'est tout. Oui, alors peut-être qu'il faudrait plutôt dire éducation pour la santé. J'ai peut-être effectivement pas bien formulé les choses. Mais sur tous les systèmes de télésurveillance, peut-être qu'il y aurait... Un partenariat à proposer quand il y a des patients qui sont suivis ou il y a des glycémies qui sont faites à domicile, ben leur dire, ben voilà, on va vous donner des ressources. J'en avais une sur le diabète, je ne sais plus comment elle s'appelle, alors je ne l'ai pas retrouvée, mais et des choses qui pourraient être faites de façon un petit peu plus sophistiquée, quoi. C'est tout.
Ça reste un exercice en fait que l'étudiant fait déjà quand il se retrouve sur un comptoir à l'officine. C'est la traduction de la technicité qu'il est en train d'acquérir au langage du malade qui est en face de lui. Donc c'est un exercice qui est très intéressant. Et outre le fait que oui, l'étudiant va pas publier sur Internet c'est évident et ça a besoin d'être validé par un comité qui est technique et qui validera aussi bien l'information que la forme, c'est évident. Même ne serait-ce que cet exercice-là de traduction d'un article, d'une ressource qui vient d'un enseignant, donc qui est technique et à laquelle il est assez aguerri de part, parce qu'on s'adresse à des étudiants qui sont peut-être pas en début de parcours, donc à laquelle il est aguerri en un langage qui est commun. Cet exercice m'apparaît vraiment très intéressant.
Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, donc si cette proposition vous agrée, ben, il faudra qu'on prévoie un budget par rapport à ça, qu'on voit comment on constitue un comité. Vous